Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Sédoudia, bonjour. En Éthiopie, les hôpitaux de la capitale du Tigré débordés. Selon le comité international de la Croix-Rouge, de nombreux blessés affluaient dimanche dans les hôpitaux de Mekele, 24 heures après la prise annoncée par le gouvernement de cette ville et de sa victoire militaire dans cette région dissidente du Nord. La communauté internationale s'est maintes fois inquiétée des conséquences pour les civils de l'opération militaire lancée le 4 novembre par le premier ministre Abiy Ahmed pour remplacer les autorités tigréennes issues du TPLF par ce qu'il a appelé des institutions légitimes. Aucun bilan précis du conflit n'est jusqu'ici disponible, mais plus de 43 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin. Pas possible de vérifier de manière indépendante si Mekele était totalement sous le contrôle de l'armée fédérale en raison du blackout quasi total qui touche le Tigré depuis le début du conflit. Au Nigeria, des villageois de l'État septentrional du Borno ont enterré dimanche 43 paysans tués dans une attaque par des djihadistes présumés. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba. Les effectifs de l'armée du Niger, qui combat depuis des années les groupes djihadistes, devraient passer de 25 000 actuellement à au moins 50 000 dans les 5 prochaines années, a affirmé Issoufou Katambe, le ministre de la Défense, samedi devant le Parlement à Niamey. L'armée du Niger paie un lourd tribut à la lutte aux groupes djihadistes, dont les attaques se sont multipliées depuis 2015, notamment dans l'ouest, proche du Mali, où le groupe État islamique est notamment présent, et dans le sud-est riverain du lac Tchad et du Nigeria, devenu un repère du groupe Boko Haram. Au Togo, deux représentants de l'opposition ont été arrêtés et leur mouvement a dénoncé ce qu'il a appelé des intimidations. Nous y reviendrons avec Bagassi Koura. Les progrès dans la lutte contre le paludisme sont au point mort ces dernières années, mais en garde ce lundi l'Organisation mondiale de la santé et quelques 400 000 personnes sont mortes encore l'année dernière de la maladie. L'OMS souligne que ce plateau est particulièrement notable en Afrique, le continent qui connaît le plus de cas de malaria et le plus grand nombre de morts selon le rapport que l'OMS consacre à ce fléau chaque année. Covid-19, le Canada a annoncé dimanche une nouvelle prolongation jusqu'au 21 janvier 2021 de la fermeture de ses frontières aux étrangers dont la présence n'est pas jugée essentielle. Et ici aux États-Unis, le docteur Anthony Fauci, figure scientifique très respectée dans ce pays, a mis en garde dimanche contre une forte hausse de la courbe des contaminations au COVID-19 après la fête de Thanksgiving marquée par les déplacements de millions d'Américains à travers le pays. Sur le plan politique, le président élu Joe Biden a annoncé dimanche la composition de son équipe de communication à la Maison-Blanche qui sera exclusivement féminine, une première dans l'histoire des États-Unis, selon son entourage. Dans cette équipe, Jen Psaki, l'ancienne porte-parole du département d'État et ancienne directrice de la communication à la Maison-Blanche sous Barack Obama. Elle occupera le poste très en vue d'attaché de presse de la Maison-Blanche. En France, les 4 policiers mis en cause pour le tabassage de Michel Zecler à Paris ont été mis en examen dans la nuit de dimanche à lundi et deux d'entre eux ont été écroués, a appris l'AFP de sources judiciaires. Parmi ces 4 policiers mis en examen par un juge d'instruction, 3 l'ont été pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, et faux en écriture publique. Deux d'entre eux ont été écroués, tandis que les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. La suite de nos informations. Au Nigeria, au moins 43 personnes ont été tuées ce week-end par des assaillants près de Maïdougouri, dans le nord-est du pays. Des témoins rapportent que les assaillants ont attaqué et ligoté des agriculteurs dans leurs champs avant de les égorger dans un village situé à 25 km de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, fief du groupe terroriste Boko Haram. Notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Il s'agit de l'une des pires attaques de ces derniers mois dans cette région où le groupe Boko Haram est actif depuis plusieurs années. Les autorités de l'État de Borno affirment avoir lancé une chasse à l'homme pour y trouver les assaillants. Aucun groupe n'a encore revendiqué la responsabilité de l'attaque. Le président Mohamed Bouhari a exprimé sa douleur en qualifiant le massacre de masse comme une attaque insensée. Le mois dernier, des combattants de Boko Haram ont tué 22 agriculteurs qui travaillaient dans des champs. Dimanche, 6 soldats ont été tués dans une embuscade djihadiste près de la ville de Baga dans le même état de Borno. Les soldats se rendaient dans la région pour renforcer la sécurité dans un dépôt de distribution de nourriture pour les personnes déplacées. Le gouverneur de l'état de Borno, Babagana Zloum, souhaite que plus de jeunes soient recrutés pour aider à lutter contre l'insurrection dans la région. Une suggestion qui semble soulever des inquiétudes quant à un manque de confiance dans l'armée. L'armée qui a répété à plusieurs reprises avoir affaibli les membres du groupe Boko Haram.
Au Togo, la DMK, Dynamique Monseigneur Podzro, a dénoncé dimanche ce que ce mouvement de l'opposition a appelé les intimidations et le harcèlement judiciaire après l'interpellation ce week-end de deux de ses membres, Bagassi Koura.
Brigitte Adjagmavo Johnson, grande figure de l'opposition togolaise, a été arrêtée alors qu'elle voulait rendre visite au service central de recherche et d'investigation criminelle à Gérard Diossou, qui a été molesté et enlevé avant d'être placé en garde à vue. Elle est accusée d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, selon les termes du procureur de la République Essolissam Poyodi. Cette interpellation fait suite à une enquête ouverte après des renseignements faisant état depuis quelque temps d'un plan de déstabilisation des institutions de la République, selon le procureur. Le rassemblement de l'opposition avait appelé à une marche samedi à Lomé pour protester contre les résultats de la présidentielle du 22 février, manifestation interdite par le gouvernement officiellement à cause du coronavirus. La DMK, qui exige la libération immédiate et sans condition de ses deux responsables, affirme qu'elle rendra le président Faure Gnassingbé, je cite, personnellement responsable de ce qu'il pourrait leur arriver. Brigitte Adjagmabo Johnson fut la première femme à se présenter à une élection présidentielle au Togo en 2010 et elle dirige la Convention démocratique des peuples africains qui soutient la DMK. Vendredi, une délégation de 4 membres de la DMK, dont Abeyomé Kodjo, arrivée en seconde place au scrutin présidentiel de février et qui ne reconnaît pas l'élection de Faure Gnassingbé à un quatrième mandat, a rencontré les ambassadeurs des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Union européenne et des Nations unies.
Ici aux États-Unis, la Cour suprême de l'État de Pennsylvanie a rejeté pendant le week-end, c'était samedi, une nouvelle plainte de la campagne du président Donald Trump dénonçant des irrégularités lors de la présidentielle du 3 novembre. Eric Manirakidza.
La plainte déposée par les Républicains est réclamée soit l'invalidation des votes par la poste, soit l'annulation de l'ensemble du vote pour laisser aux législateurs de l'État le choix de décider du vainqueur. La Cour a rejeté ces deux demandes. La plainte contestait aussi la loi adoptée en 2019 instaurant le vote par correspondance en Pennsylvanie, affirmant qu'elle était anticonstitutionnelle. Dans leur verdict, des juges ont fait valoir que la contestation de cette loi intervenait trop tard, soit plus d'un an après son adoption. La Pennsylvanie a certifié la victoire de Joe Biden le 24 novembre, mais cette dernière plainte visait également à contester cette décision. Il a remporté la Pennsylvanie avec une différence de 81 000 voix. Vendredi, une cour d'appel avait rejeté une autre plainte de la campagne Trump affirmant que l'élection n'avait pas été équitable et a refusé de bloquer la certification de la victoire de Joe Biden, toujours en Pennsylvanie.
La Minute Éco, John Linden.
Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont défini les axes prioritaires de développement devant favoriser l'intégration communautaire au cours des 5 prochaines années. C'était lors de leur 18e sommet ordinaire à Libreville au Gabon. Les sujets prioritaires de leur plan sont notamment le développement des infrastructures de communication et la consolidation de la paix et de la sécurité. Le président mauritanien a annoncé ce week-end de fortes hausses des retraites et des salaires dans les secteurs de la santé et de l'éducation. C'était lors des cérémonies de célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Les agents du secteur de la santé vont bénéficier d'une hausse de 30% de leur salaire et d'une généralisation de leur prime de risque, a annoncé le président dans un discours à la télévision publique. Les retraités verront également leur pension doublée et désormais payée tous les mois au lieu de tous les 3 mois actuellement. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et ses alliés se réunissent ce lundi et demain mardi pour tenter de redonner un peu de vigueur à un marché du brut toujours déprimé par la pandémie de coronavirus. Les membres du cartel pourraient décider de prolonger le niveau de réduction de leur production actuelle au-delà du 1er janvier. L'OPEP et d'autres grands producteurs, notamment la Russie, réunis sous le terme OPEP+, se sont astreints cette année à des coupes drastiques dans leur production d'or noir pour tenter de l'adapter à un niveau de demande qui a fondu.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Ibissa et bonjour à tous.
Basketball pour commencer, éliminatoire Afrobasket 2021. La RDC attendra la deuxième fenêtre en février 2021 pour valider son ticket au tournoi final.
Oui, pour ce qui est de la première phase qualificative clôturée hier, les Léopards se sont offerts 2 victoires en 3 sorties. Précisons avec notre envoyé spécial à Kigali au Rwanda, Vado Simbo Yamba Yamba.
Une défaite face au champion en titre, la Tunisie, 50-61, contre 2 victoires d'abord en ouverture, 55-51, sur la République centrafricaine, et une deuxième au clôture de cette première fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket, 82-64 sur Madagascar. Il y a de quoi apprécier positivement cette première étape. Rufin Kayembe et les capitaines de la RDC.
Le bilan est vraiment positif parce que c'était l'objectif de gagner des matchs minimum pour pouvoir respirer et puis rentrer chez nous, préparer pour la prochaine fenêtre.
Un premier objectif atteint, mais pas suffisant pour la RDC qui devra assurer sa qualification lors de la deuxième fenêtre. Rifin Kayembe et ses coéquipiers savent quoi faire.
On sait que non, si on gagne ce match, on sera déjà qualifié. Donc on sera là pour gagner tous les matchs qui vont se présenter devant nous.
Seule la Tunisie a validé déjà son ticket pour les tournois finales. La République démocratique du Congo, la République centrafricaine et Madagascar vont se disputer les 2 tickets restants en février 2021. Kinshasa, Valdo Simoyamba, VOA Afrique.
Dans ce groupe, la Tunisie, victorieuse 80-53 de la Centrafrique, finit en tête avec 3 victoires. Sans faute également pour le Sénégal, après son succès 66-51 devant l'Angola. Dans le groupe E, basé à Alexandrie, c'est le pays hôte, l'Égypte, qui arrive en tête après avoir pris le meilleur sur le Maroc.
Le football sénégalais en deuil, Élisée. Pape Bouba Diop, premier buteur de l'histoire des Lions en Coupe du Monde, est décédé ce dimanche en France.
Exactement, Idrissa, l'emblématique numéro 19 de la génération dite 2002 est resté dans les mémoires suite au parcours des Lions de la Teranga à la Coupe du Monde 2002 avec 3 buts. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
Pape Bouba Diop est mort, la terrible nouvelle ramène chaque Sénégalais à une date symbolique. Le 31 mai 2002, qui est à ce jour l'un des plus beaux moments vécus par les amateurs de football sénégalais et africains. Le Sénégal, qui joue son premier match de Coupe du Monde, terrasse la France, championne du monde en titre, grâce à un but de Pape Bouba Diop. Le Lion devient l'icône de toute une génération, de tout un peuple. Aujourd'hui, meurtri par cette perte qui est rapidement montée au top des tendances sur les réseaux sociaux. Son décès, annoncé ce dimanche par sa famille, fait suite à une longue maladie que l'ancien pensionnaire de l'équipe nationale du Sénégal a vécu dans la plus grande discrétion. Un caractère qui a été le moteur de sa carrière et de sa vie. Papa Boubo Diop était certes un des piliers de la sélection, mais il était toujours loin des frasques qui caractérisaient les stars de sa génération, dont faisaient partie le tonitruant El Hadj Diouf. Parti à l'âge de 42 ans, Pape Boubo Diop est le meilleur buteur du Sénégal en Coupe du Monde. En plus de l'unique but de la victoire historique du Sénégal contre la France, le Lion avait aussi marqué le parcours des Lions en inscrivant un doublé contre l'Uruguay. Deux buts qui avaient permis au Sénégal de décrocher le nul et une place en huitième de finale de la Coupe du Monde 2002. À Dakar, Seydina Bagri pour VOA Afrique.
Sur le terrain, la Gambie valide le seul ticket qualificatif de la zone A de l'UFOA pour la prochaine CAN des moins de 20 ans.
Tout à fait. Les jeunes Scorpions ont résisté aux jeunes Lions du Sénégal qui évoluent à domicile à Thiès. Les deux équipes se sont séparées sous le score de 2-2 après les 120 minutes de jeu. Et c'est au tir au but que les Gambiens plus adroits l'ont emporté 7-6. Ils s'offrent ainsi le seul billet qualificatif de cette zone pour la prochaine CAN de la catégorie qui aura lieu en Mauritanie en 2021.
La saison de la Ligue des champions de la CAF à peine terminée, la nouvelle a démarré aussitôt avec le tour préliminaire aller.
Oui, c'est le début d'un long parcours pour la désignation du possible successeur d'Alali Sacré vendredi pour la saison 2019-2020. Bonne opération des Nigériens d'Enimba qui sont allés battre 1-0 le champion burkinabé de Raimo. Coup de victoire également des Ivoiriens de Racing Club d'Abidjan face au Togolais d'Asco de Kara. Les Sénégalais de Tchernguet ont ramené le nul 1-1 de leur déplacement en Gambie face à l'équipe de l'Amé. Même résultat entre le champion du Bénin, Buff du Bogou, et les Algériens du Mouloudia.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La nation centrafricaine a rendu un dernier hommage dimanche à l'imam Oumar Kobiné Layama, le président du Conseil supérieur islamique de Centrafrique, est décédé samedi soir à Bangui suite à un malaise. Ses obsèques se sont déroulées au PK5 en présence du président centrafricain et des communautés chrétiennes et musulmanes. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
La nouvelle de la disparition de ce grand homme, artisan de la paix, a choqué toute la nation centrafricaine. Au premier rang, aux côtés du cardinal Zapalinga et de l'apôtre Nicolas Biarakoyame, pour la quête de la paix et la cohésion sociale pendant les moments forts de la crise de 2013, l'imam Kobiné Layama a suscité de l'admiration à Bangui comme à l'intérieur du pays. Ahmad Deliris, premier vice-président du Conseil supérieur islamique de Centrafrique.
Ce n'est qu'à 21h fort, on m'a appelé que voilà, ton grand frère est décédé. Un vide national, pas pour la communauté musulmane, mais pour nous tous, nous les Centrafricains, parce qu'à des moments durs, le moment de la crise là, ils sont trois, les trios, on dit les trios, le cardinal, l'apôtre Gerkoyame et lui Kobiné. Je crois qu'ils ont sillonné tout le monde entier, tout le monde a vu ce que Kobiné a fait, ce que les autres ont fait. Donc vraiment, c'est le pays qui a perdu un digne fils, un brave fils.
Larmes aux yeux, l'archevêque de Bangui, cardinal Zapalinga, regrette la disparition d'un frère, un homme de paix.
Le grand monsieur, toujours au-dessus de ses moyens, quand je l'ai appelé vendredi, il m'a dit qu'on allait se voir lundi. Et grande était ma surprise, ça m'a dit d'apprendre son décès. Oui, un grand homme vient de nous quitter, c'est un baobab qui est tombé. Parce que cet homme, un érudit, un homme de sagesse, un homme qui savait rassembler, un homme qui avait la parole de l'unité dans sa bouche et qui avait du respect, de l'estime pour l'autre, il est parti.
Lucienne est de confession chrétienne. Elle vient assister aux obsèques dans le quartier du PK5. Elle pleure, un artisan de cohésion sociale entre chrétiens et musulmans.
Nous, les peuples centrafricains, on a beaucoup de regrets pour lui parce que on a perdu un grand monsieur actuellement dans notre pays parce qu'il était là pendant pendant la guerre.
Âgé de 66 ans, Omar Kobine Layama est décédé subitement mardi soir à la suite d'un malaise à Bangui. Sa disparition laisse un grand vide dans les communautés chrétiennes et musulmanes. Il laisse derrière lui une veuve et six orphelins. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Les attentes des populations au Burkina Faso après l'annonce provisoire par la commission électorale de la réélection du président Roch Marc Christian Kabore avec 57,87% des voix. Ce mandat doit être la restauration de la sécurité selon les populations qui vivent les attentats terroristes depuis maintenant 5 ans. À la question de l'insécurité s'ajoute celle de la fronde sociale et de la réconciliation nationale sur lesquelles le président Kabore devrait se pencher, selon les analystes politiques. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Insécurité, terrorisme, ce sont les termes les plus utilisés à Ouagadougou après la réélection de Roch Kabore dès le premier tour de la présidentielle. Les populations veulent la sécurité.
Nous sommes dans une situation d'insécurité.
Judy Kael est un Ouagalais.
Si le président Roch Marc Christian Kabore il pouvait essayer de trouver une solution avec les terroristes afin de trouver un terrain d'entente, de restaurer la paix au Burkina Faso, cela, ça va aller.
Hamza Wanga est aussi un Burkinabé.
On voulait juste qu'ils voient la position de l'insécurité. C'est ça qui nous importe.
Il n'y a pas que l'insécurité, il y a aussi le chômage. Moussa Babi est étudiant.
Si le président Roch Marc Christian Kabore pouvait créer des usines de transformation, supposons qu'il crée 10 usines, regardez le nombre de personnes qui vont travailler et regardez le nombre de personnes qui vont pouvoir subvenir à leurs besoins.
Le premier défi du président est la question, de mon point de vue, sécuritaire, ainsi que celle du paysage social. L'un ne va pas sans l'autre.
Lionel Bilgo est analyste politique.
À mon humble avis, il faut urgemment mettre en place un nouveau contrat social qui permette à chaque Burkinabé de se reconnaître dans le Faso, mais aussi de s'engager pour le Faso. Cette première étape est très difficile car elle appelle à des réformes houleuses et courageuses permettant d'asseoir les bases claires de fonctionnement de la vie de notre pays pour ensuite aisément résoudre les problèmes cruciaux qui handicapent sérieusement notre développement. C'est ainsi un mandat qui pourra intégrer la dimension réconciliation.
En plus du premier défi sécuritaire, Roch Kabore a deux autres défis à relever, selon Pazien, juriste et analyste politique.
Le deuxième défi qui est très important, il s'agit pour le président de légitimer lui-même son élection. Ce qui voudrait dire que le président doit travailler à prendre en compte les préoccupations de ceux-là qui n'ont pas exprimé leur vote pour une raison ou une autre. Le troisième point, c'est la question de la réconciliation. Je mets dans cette question les relations avec les partenaires sociaux. Durant le premier quinquennat de Roch Marc Christian Kabore, il y a eu de très grands remous sociaux, notamment avec les syndicats.
Les résultats provisoires des législatives publiés ce week-end donnent au parti de Blaise Compaoré, le CDP, le plus grand nombre de députés après le parti au pouvoir, soit 20 députés, et devient le premier parti d'opposition, détrônant ainsi l'UPC de Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition. Sortant. Le parti de Roch Kabore, lui, n'obtient pas la majorité au Parlement, 56 sur 127 députés. Cependant, le parti au pouvoir peut compter sur ses alliés pour gouverner. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Tchad, la 11e journée de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale a été célébrée ce week-end à N'Djamena en présence du président Idriss Déby Itno. Une journée qui coïncide avec le 62e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad, mais elle a été ternie par un conflit éleveur-agriculteur qui a fait une trentaine de morts dans la province du Mayo-Kébi-Est dans le sud du pays. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmadjingar fait le point.
Les responsables de trois confessions religieuses notent avec regret et tristesse que la veille de la célébration de cette journée soit marquée par les conflits sanglants entre des agriculteurs et des éleveurs dans une partie du pays. Un conflit suite à la dévastation de champs des agriculteurs qui s'est soldé par plusieurs morts et des dégâts matériels.
Nous manquerons gravement à notre devoir de religieux si nous ne dénonçons pas ces faits qui prouvent que le défi de la recherche de la paix est de taille.
Abbé Romian Guelbé, coordonnateur de la plateforme interconfessionnelle. La plateforme dénonce également la menace qui plane sur les moyens de communication et les bras de fer entre le pouvoir et les partis politiques de l'opposition. Crise politique après l'annonce de l'organisation de forums citoyens par les forces vives qui ne se reconnaissent pas dans les résolutions du deuxième forum national inclusif. Répondant aux religieux, le président Idriss Déby Itno accuse les acteurs politiques et de la société civile de vouloir diviser le Tchadien pour des intérêts égoïstes.
Ce qui divise le Tchadien pour des raisons politiques. Je voudrais à cet égard concerner les événements tragiques survenus dans le département de Kabia. Tous ceux qui sont impliqués répondront de leurs actes devant la justice.
Une déclaration qui ne convainc pas le député du département de la Kabia, province du Mayukibi-Est, Tchombi Getna Kami. Il doute de l'aboutissement de ce dossier.
Qui entretient ce conflit, c'est connu parce que les éleveurs, eux, ils gardent les bétails des généraux et autres. Et ces généraux arment leur Bouvier. Ils mettent le bétail dans des champs et pour peu que l'agriculteur réagisse par rapport à la dévastation de son champ, c'est la flèche ou bien c'est une balle qui est partie à son endroit. C'est une bonne chose si cette affaire pouvait arriver jusqu'au niveau de la justice pour situer les responsabilités. Mais moi, je doute que ça ne puisse arriver à ce niveau. Il faut qu'on constitue peut-être des poules d'avocats pour faire avancer rapidement le dossier.
Vu la lenteur judiciaire, Toubou Mahamat Bakit, président de l'Union nationale de jeunes étudiants chrétiens et musulmans des universités du Tchad propose qu'un comité spécial soit mis en place au niveau de la justice pour gérer cette affaire.
Tout le monde le sait que la justice au Tchad n'est pas crédible. Il faut aller voir les procès qui traînent des années. Vous voulez qu'on traîne ces pauvres-là pour des années? Je propose au président de la République de mettre un comité de 90 jours qui sera composé par la société civile, gouvernement, acteurs de l'opposition, parti majoritaire. Et nommer à la tête de ce comité un juriste crédible pour arriver à une justice légale.
Deux cantons situés dans le département de la Kabia, province du Mayukibi-Est, dans le sud du Tchad, sont touchés par ce conflit. Selon le bilan officiel, 36 personnes sont tuées alors que des sources indépendantes évoquent une cinquantaine de morts, 5 villages incendiés, des milliers de bétails et de personnes disparues et plus de 70 arrestations. André Godemadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Insupportable pour le pays et pour l'économie, c'est en ces termes que le président Macky Sall a décrit l'éventualité d'une seconde vague de COVID-19 au Sénégal. Pour lui, avec la hausse des contaminations, notamment celle des cas communautaires, le pays est de plus en plus proche de ce scénario. Cette sortie du président coïncide avec le relâchement noté au Sénégal. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
Le retour en force des cas communautaires inquiète les autorités et le président Sall est monté au créneau pour insister sur le respect strict des mesures barrières que sont la distanciation sociale, le port correct du masque et le lavage régulier des mains. Un message entendu par les Sénégalais qui se défendent d'être à l'origine de ces manquements. Pour Sam Ndiaye, le relâchement vient des autorités puisqu'elles ont levé le pied dans le cadre de la prévention.
L'État avait défini des mesures de prévention et il y avait une énorme pression avec des contrôles systématiques sur les citoyens pour le respect des mesures barrières. Mais au fur et à mesure que les cas positifs baissaient, la rigueur également était en baisse. Et finalement, les Sénégalais ont également suivi cette lancée. Nous savons tous que si les populations ne subissent plus cette pression qu'il y avait avant, ils vont arrêter de suivre.
Une deuxième vague n'est pas souhaitable, mais cela semble se préciser vu la remontée rapide des cas communautaires, mais aussi la dynamique dans les pays occidentaux. Dans cette même dynamique, Seydina Aliou Boly, spécialiste en préparation et réponse aux catastrophes, estime que le Sénégal est encore susceptible de connaître une deuxième vague et pour y échapper, il appelle à plus de vigilance et de rigueur.
Et ce qui est en train d'arriver ailleurs, notamment en Europe, il n'est pas du tout exclu que cela arrive ici. En matière de pandémie, tant qu'il y a un seul cas qui reste dans un pays, dans une communauté, dans une société, il faut rester prudent et considérer que ce n'est pas fini. Nous ne sommes pas à l'abri d'une deuxième vague. Et nous devons rester extrêmement vigilants. Parce que nul ne sait quelle sera non seulement la dynamique, mais surtout la virulence du virus. Parce que le virus peut muter. Donc il faut faire très attention et continuer de respecter justement les mesures barrières et travailler à avoir justement un traitement.
En attendant une éventuelle deuxième vague, des spécialistes comme Seydina Aliou Boly estiment que le Sénégal et l'Afrique devraient aussi se donner les moyens d'être des acteurs clés dans la conception de solutions médicales durables contre le Covid-19. De son côté, le président Sall dit travailler en parfaite harmonie avec les partenaires, notamment ceux du G20, pour un accès universel au vaccin. Seydina Bagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et de Michel Jean.